Bonjour à toutes et à tous. Je suis Claude Blackbeller. Je vais vous raconter encore un petit épisode de l'histoire de ma vie. Une histoire qui a eu lieu en 1967 lors de mon grand voyage, un voyage de 3 mois aux États-Unis. Départ Orly, Roissy n'existe pas encore, pour rejoindre Kennedy Airport, l'aéroport de New York. Là, à New York, mes parents m'avaient offert un joli petit voyage entre l'aéroport et New York, un voyage en hélicoptère qui a survolé majestueusement cette ville immense et bruyante, qui a survolé tous ces gratte-ciels, car à l'époque, les choses étaient autorisées. Voilà, débarquement sur un grand gratte-ciel et on rejoint le sol. Là, je devais me rendre, d'ailleurs je me suis rendu, dans une YMCA, Young Men Christian Association. C'était les auberges de jeunesse américaines. Auberge de jeunesse un peu polluée par des homosexuels qui m'ont fait bien peur. C'était mon premier grand voyage et j'ai eu peur d'être de rencontrer ces gens qui m'ont fait des tas de sollicitations et auxquelles je ne voulais absolument pas répondre. Donc là, cette première nuit, impossible de dormir. J'ai quitté ce bâtiment dans lequel je ne me sentais pas en sécurité pour rentrer dans cette grande ville bruyante, immense, qu'est New York. Là, je me suis promené dans tous les quartiers qui venaient au fil de mes pas et j'ai même traversé Harlem à pied. Ça m'a pris un brave moment. Et là, cette ville noire par excellence, je vivais dans le calme, je n'ai eu aucun problème, beaucoup moins que dans ma YMCA, et j'ai pu voir New York et Harlem la nuit, sans problème, bien au calme. Les Noirs étaient sur le pas de leur porte car ils dormaient chacun de leur tour dans des petites maisons ou dans des immeubles parce que c'était quand même déjà bien construit. Et voilà, ils dormaient chacun de leur tour, n'ayant pas de foyer à eux en propre. Restait quelques jours à New York, quelques jours au cours duquel j'ai été me promener à Greenwich Village. Charmant quartier. Quartier des artistes, plein de boutiques psychédéliques. C'était le début des années hippies. Là, j'ai vu plein de belles idées, et notamment ce petit moteur. Dans une boutique, ce petit moteur sur lequel il avait été fixé un plateau, et sur ce plateau, une feuille de dessin. Et là, on te donnait de la peinture qui était une sorte de bidon, comme des bidons de ketchup, quoi. Et là, tu la laissais tomber et avec la force centrifuge, elle éclatait sur cette toile qui était extrêmement jolie. Et les mélanges se fusionnaient aux alentours de chacun des tours qui étaient faits. Et ça faisait quand même quelque chose de bien. Bon, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, car je me suis servi de cette idée-là en 1969, 2 ans après, pour un voyage que j'ai fait sur la Baltique. Mais ça, je vous raconterai ça. Ensuite, eh bien, Greenwich Village, c'est plein de cafés sympas, plein de boîtes de nuit, boîtes de nuit de jazz, et il y en avait une qui était mythique, et à cette époque-là, le jazz commençait à me trotter dans la tête, qui s'appelait le Blue Note. Le Blue Note, donc, c'était une boîte de nuit dans laquelle les grands orchestres, non, c'était pas des grands orchestres, ils avaient disparu à cette époque-là, mais des petites formations dirigées par Oscar Peterson, Dizzy Gillespie, voire Ray Charles. Et les nuits étaient chaudes et bien rythmées, et j'avoue que ça me faisait du bien de passer là quelque temps de mon temps de ce petit voyage. Que dire de Central Park, de Manhattan? Manhattan, je me souviens avoir pris un billet pour monter en haut de l'Empire State Building. Là, c'était tout à fait étonnant. C'était l'un des premiers grands gratte-ciel de New York, vieux gratte-ciel, hein, parce que je ne sais plus en quelle année ça a été construit, mais il était dit, on vous expliquait une fois arrivé là-haut, que ce gratte-ciel, avec le vent, pouvait bouger, avec une amplitude de 2 mètres de chaque côté de son axe. Mais quelle vue là-haut, quel paysage magnifique! Et j'avoue que cette grande ville, et c'était dommage parce que j'ai pas fait trop de photos à ce moment-là, mais c'est une grande ville qui m'a trotté dans la tête et ça m'a. J'ai gardé de très bons souvenirs de cette première approche américaine. Après, je me suis rendu dans la gare des bus de New York. Pour prendre un billet pour 90 jours, 90 dollars, donc 1 dollar par jour, pour faire le tour des États-Unis dans le sens que l'on veut et pour aller des directions, dans n'importe quelle direction. Voilà, vous aviez 90 jours à dépenser et qui vous coûtait 90 dollars. Fort de tout ça, j'ai pris mon premier billet pour redescendre la côte Est et rejoindre la Floride et Miami. Là, à Miami, grande première plage que je voyais, c'était immense. Il faisait tellement chaud, hein, on était au mois de juin ou juillet, août, septembre, ouais. On était au mois de juillet, il faisait une chaleur à crever. Et là, je suis resté sur cette plage pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, un peu fou, j'ai bronzé 3 fois et pelé 3 fois. Bon, ben voilà, ça m'a mis à plat. Mais malgré tout, j'y ai passé du bon temps parce que j'avais rencontré un joueur de poker professionnel qui m'a appris le jeu et avec qui on a commencé à faire des petites parties sans grosse mise. Mais j'ai appris à jouer au poker et ça m'a, ça, ouais, j'ai bien aimé. Et puis ça m'a permis de me reposer après mes 3 bronzages successifs. Après Miami, Atlanta pour aller faire un tour à Disneyland. Disneyland, c'était le premier parc d'attractions mondial dont j'avais un peu entendu parler, mais que je me faisais une joie de visiter parce que c'était un concept qu'en France on ne connaissait pas, mais que Walt Disney avait rendu extrêmement célèbre par toutes ses attractions. Après Disneyland, après Atlanta, direction la Nouvelle-Orléans. Là, formidable, formidable. Je suis au pays du jazz et je m'installe à côté de Bourbon Street. Bourbon Street, c'est la rue des Français en pleine Nouvelle-Orléans. La rue, le quartier français avec de la cuisine française. Donc voilà, ça me rappelait mon pays. Et vous savez, c'est cette rue avec des jolis balcons en fer forgé d'inspiration espagnole. Et là, tout est consacré au jazz. Le jazz, vous le voyez partout, vous l'entendez à tout moment, le matin, le midi et le soir. J'ai même eu l'occasion de voir une procession lors du décès d'un joueur de jazz que je connaissais pas, dont j'ai oublié le nom, et avec cette profession et ces joueurs qui et ces orchestres qui improvisaient dans des marches tout à fait surréalistes, avec des trombones, avec des trompettes, et là, boum, boum, boum. grande marche, très impressionnant, une musique qui vous prenait aux tripes, et là, c'était un grand moment, un grand moment de recueillement, mais du recueillement à l'américaine et au noir, fait par les Noirs américains. Super ambiance, orchestrée, sans jeu de mots, par des orchestres noirs. Il y avait une boîte, une sorte de boui-boui, dans laquelle il y avait une vieille femme qui jouait du piano, la clope au bec, avec un vieux bonhomme qui jouait de la batterie, une batterie qu'il avait défoncée et qui était récupérée, les pots de tambour étaient réparés avec du chewing-gum, et ça donnait des sons tout à fait étonnants, tout à fait surprenants, et là, tout le monde s'arrêtait, quoi. C'était hyper prenant de voir ces impros de blues, c'était chanté, c'était le jazz, quoi. On était envahi par cette musique et qui m'a poursuivi et qui me poursuit encore jusqu'à maintenant. Voilà, de quoi je me souviens encore. Ah oui, si, j'étais dans un bistrot, c'est pas un bistrot, dans un bar, qui faisait des cocktails aux 12 couleurs. C'est-à-dire qu'il vous mettait un alcool blanc, au-dessus, vous mettez un alcool vert, au-dessus, un alcool jaune, au-dessus, un alcool rouge, et rien ne se mélangeait. Et je me souviens que ça n'avait pas été si mauvais. Voilà, l'histoire de mon cocktail aux 12 couleurs. Après la Nouvelle-Orléans, eh bien voilà, départ pour le Texas, Dallas. Dallas, je voulais y passer parce que j'avais été très impressionné par l'assassinat de Kennedy en 1963. Cet assassinat commandé à Lee Oswald, on ne sait pas par qui, les Russes, Cuba, etc. Cet assassinat qui a fait courir toute l'Amérique à travers le procès Warren et qui, moi, m'avait beaucoup impressionné. J'avais lu toutes les minutes du procès Warren. Je connaissais pas Kennedy, hormis pour l'avoir entendu de temps en temps et vu à la télévision, mais voilà, je voulais m'arrêter à Dallas pour voir ce qui s'était passé là-bas. Et puis, il y avait aussi autre chose. En 1967, moment où j'étais aux États-Unis, le président Johnson, qui avait succédé à Kennedy assassiné, eh bien, c'était lui qui était président. C'était lui qui continuait la guerre du Vietnam. C'était lui qui était vice-président de Kennedy et qui a fait sa première prestation de serment dans l'avion qui ramenait le corps de Kennedy à Washington. Après, le Texas, où il n'y avait rien d'extraordinaire, grande ville, beaucoup de puits de pétrole, des gratte-ciels, etc. Mais bon, je n'ai pas gardé un souvenir formidable de cette ville. Après, là, on rentre dans une Amérique que j'ai beaucoup aimée, à travers l'État du Nouveau-Mexique, et un premier arrêt à Santa Fe. Alors, Santa Fe, j'ai gardé un bon souvenir parce que à cette époque-là, je commençais à draguer les filles. Et puis, tous les soirs, il y avait une sorte de scénario sur la place de Santa Fe, une place rectangulaire ou carrée, avec un massif d'arbres au milieu et puis des rues à alcôves qui entourait cette place. Et puis là, tous les soirs, à l'heure de l'apéro, et ben les filles venaient draguer. Alors elles avaient des voitures magnifiques. Elles conduisaient, elles avaient juste eu leur permis, et puis leur père leur avait passé des voitures. Et puis moi, bah voilà, petit Français, je regardais ça. Et puis j'ai rencontré mon Indienne. Une Indienne Navajo. Vraiment très typé, avec qui j'ai passé plusieurs jours à ce Nouveau-Mexique, parce que elle me parlait d'elle, elle me parlait de ses parents, elle me parlait de ce peuple Navajo qui avait été éreinté, exterminé par les Américains, et qui, eh bien, à travers certaines de ces, à travers certains messages, eh bien, recommencer à prendre vie. Le premier de ces messages, eh bien, se situe au niveau des hippies, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais ces hippies qui recherchent la nature, qui recherchaient la pureté naturelle, eh bien, ce peuple Navajo en était tout empreint. Et cette fille m'avait fait passer ce message-là, et j'avoue que j'avais été très très touché par cette Amérique qui était ancienne, qui avait une histoire et qui avait des tas de choses à raconter. Voilà, si, un petit souvenir avec cette fille, on était au bord d'un lac. Elle avait rangé sa voiture au bord d'un lac, pas sur un parking, mais sur les berges de ce lac. Et on avait été dîner dans une sorte d'auberge, toujours indienne. Et là, il se met à pleuvoir. Mais à pleuvoir quelque chose, hein, très très fort. Et petit à petit, on voyait la voiture qui commençait dans les roues commençaient. Elle ne bougeait pas, mais la berge s'affaissait et on voyait la voiture partir dans le lac. Oh, la fille et moi, ben, on est repartis. On a sauvé la voiture, mais c'était impressionnant. Voilà, je m'en souviens encore de cette petite histoire au bord d'un lac à côté de Santa Fe. Après Santa Fe, Fort Alamo. Plutôt Alamo tout court, le fort avait disparu. À Alamo, dans ce quartier d'Alamo, je ne sais plus où c'était, mais bon, c'était un grand village ou un petit quartier de je ne sais quelle ville, j'ai rencontré là des tas de gens formidables, et dont l'un d'eux m'a parlé de la plus vieille église des États-Unis. Bon, alors, il faut savoir qu'à Alamo, il y avait la plus vieille église des États-Unis. J'ai été faire un tour dans cette église. C'était une église assez microscopique, mais beaucoup de bois à l'intérieur. Et c'était la plus vieille des États-Unis. Voilà, Fort Alamo, eh bien, tout ce fort, eh bien, illustre bien la bataille de Davy Crockett. Hein, pour les gamins, petits Français que j'étais, eh ben, c'était toute une histoire, ça. Davy Crockett qui avait été fait prisonnier par Santa Anna. Santa Anna, le Mexicain, l'époque où les Mexicains bah, voulaient prendre possession des États-Unis et revendiquaient cette géographie-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, si, à Alamo, je suis passé plusieurs fois devant chez un antiquaire qui vendait des armes. Bon. Pour nous, c'est un peu bizarre, mais pour eux, bah, un antiquaire, ça peut vendre des tas de meubles, etc. Et puis des armes. Là, j'ai acheté pas cher un Colt, c'est pas un Colt, un revolver Smith & Wesson, calibre 38. Là, j'étais vraiment aux anges parce que au pays, c'est pas le Far West, mais au pays des Indiens, acheter cette arme, bon ben voilà, c'était mythique dans ma tête de petit garçon, de petit moyen garçon quoi, qui commençait à être grand. Après, Après, eh bien voilà que je suis parti, toujours au Nouveau-Mexique, dans une ville qui s'appelait Gallup. Gallup, je voulais y aller parce que c'était le plus grand festival indien des Amériques, du Nord et du Sud, qui avait lieu tous les ans. Alors là, j'ai vu toutes les tribus de l'Amérique, en partant des Incas, des Aztèques, des Sioux, des Apaches, des Comanches, des Navajos, bien sûr, et bien d'autres Iroquois. Et là, j'ai été mais vraiment très, très, très pris par cette ambiance qui était quasi religieuse, où toutes ces tribus se côtoyaient avec des jeunes, et puis des moins jeunes, et puis des Indiens bien habillés, avec leurs plumes, etc. C'était magnifique, quoi. Tout ce que j'avais connu dans les BD de ma jeunesse, eh bien, je les retrouvais là. Et puis, donc, je suis resté quoi? 2 jours là, à voir tous ces Indiens qui défilaient dans les rues, qui jouaient de la musique, qui dansaient. Là, j'ai vu quelque chose de tout à fait étonnant aussi. C'est ces Indiens montés sur un grand mât, un mât qui avait une vingtaine de mètres. Et en haut de ce grand mât, descendre progressivement, ils s'accrochaient les pieds avec une corde, ils se pendaient au bout de la corde. Et ils étaient 4 ou 5 à tourner autour du grand mât, les pieds pendus, la tête qui arrivait petit à petit vers le sol, et ils tournaient, et ils tournaient. Et c'était étonnant de voir ça, parce que ce tourbillon-là était impressionnant. On ne savait pas bien comment ça allait se terminer, parce que comme ils étaient pendus par les pieds, ils n'avaient que les mains pour amortir le choc. Le choc de l'arrivée par terre. Mais c'était une tradition, m'a-t-on dit, et voilà, c'était très très prenant. Le soir, je me suis cherché un hôtel, je m'en souviens encore, pas trouvé de place, bah oui, c'était le festival, tous les Américains étaient là, et donc on m'a conseillé d'aller dormir en prison. Bon, alors je me suis présenté au bureau du shérif, et le shérif m'a tout à fait dit qu'il allait me donner une cellule. Et alors il m'a demandé mon nom, mon état civil, etc., mes papiers, et donc j'ai été enfermé en prison. Et là, je me suis retrouvé avec un jeune indien avec qui on a beaucoup parlé. Toute la nuit, on a quasiment parlé, j'ai très très peu dormi. Et il m'a parlé de toute sa misère, la misère de sa famille, la misère des Indiens d'Amérique qui étaient quand même vraiment martyrisés par les Blancs. Et ça m'est encore resté, parce que c'était un jeune, il avait quoi? Il avait 14-15 ans, j'avais 2-3 ans de plus que lui. Et là, ben, on a passé toute une nuit à communier, entre guillemets, et à bien se comprendre. Le matin, ce même Indien, qui avait l'habitude d'être en prison, je ne sais pas pourquoi il avait été embastillé, mais bon, et il a pris son car, son gobelet, et puis il a tapé ça le long des barreaux, brrrap, et là, bon, ben, on nous a apporté un petit café, voilà, bon, on n'avait pas droit quand même au croissant et tout, mais un petit café. Et puis on a été libéré, oui, je pense qu'il était libéré avec moi, et puis voilà, et on s'est séparés. De Nouveau-Mexique, et bien voilà, mon départ pour l'Arizona. Alors l'Arizona, c'est la traversée du désert, toujours en autocar. Et là, j'ai vécu quelque chose dans ce désert de la mort. Vous savez, celui qui a fait un record de chaleur il y a quelques jours, en 2020, où il a été atteint 54 degrés à l'ombre. Record mondial. Donc là, dans ce Greyhound, donc cet autocar, à un moment donné, Une noire se lève et demande à descendre. Et là, imperturbable, le chauffeur continue à mener son car sur une route extrêmement droite et lui intimant à aller se rasseoir et qu'il n'ouvrirait pas la porte parce qu'on ne descendait pas comme ça dans le désert de la mort où il n'y avait rien d'autre que des caillasses et des serpents. Et là, cette femme a demandé à descendre, mais à de multiples reprises. Et je pense qu'elle était prise par une sorte de collapse. Elle a eu peur. Elle a eu peur devant cette étendue désertique et elle voulait quitter ce car dans lequel elle ne se sentait plus en sécurité. Mais notre chauffeur n'a pas cédé, ce qui fait que nous sommes arrivés à bon port à Las Vegas, au pays des casinos. Des casinos, on est arrivé le soir, c'était assez impressionnant. Ces casinos étaient éclairés de tas de lumières qui clignotaient dans tous les sens, des néons de toutes les couleurs. Les voitures dans les rues, elles étaient peu nombreuses, mais des voitures immenses, comme on pouvait en voir à l'époque aux États-Unis. Et sur certaines, eh bien, à l'avant, certains avaient vissé des cornes de taureau. Vous savez, quand Mercedes met son logo à l'avant, eux, ils mettaient des cornes de taureau. Voilà, alors les casinos, qu'est-ce que je peux dire de ça? Ça m'a beaucoup impressionné. D'autant que je n'avais pas un sou, alors donc le débat était clos et je ne pouvais pas faire d'excès. Mais de voir tous ces Américains ne pas quitter leur machine à sous, jouer au poker, jouer à des tables de jeu, etc. Beaucoup de monde, ça respirait un air que je n'aimais pas trop, quoi, parce que j'étais pas prêt à rencontrer cette Amérique-là et je me sentais pas très très à l'aise. Le soir, je me souviens, les hôtels, c'était toujours une préoccupation. Comme j'avais pas beaucoup d'argent, je pouvais pas descendre n'importe où. Et là, je me suis retrouvé un peu dans un hôtel borgne avec une chambre où on était plusieurs à dormir dedans. Dans cette chambre, un gros ventilateur, mais un ventilateur sur pied, qui balayait la chambre. La porte, c'était pas une porte, c'était comme une cage à poules, quoi, avec une moustiquaire, quoi, une sorte de moustiquaire qui donnait sur un couloir, lui-même fermé, etc. Bon, un hôtel borgne, quoi. C'était bon, voilà. Bon, je me souviens de ça. C'était pas très très passionnant, mais bon. J'ai quitté Las Vegas et ses casinos pour aller me promener dans le Grand Canyon. Dans ce Grand Canyon, installé sur un surplomb, il y avait la possibilité de rejoindre la rivière. De rejoindre la rivière du Colorado peut-être. Et se promener sur des radeaux, etc. Oui, c'était bien le fleuve du Colorado. Se promener sur des radeaux, sur des rapides, etc. Voilà ce que j'ai fait. C'était intéressant, entouré de murs rouges. Et ensuite, à la remontée, parce que le canyon était quand même encaissé, à la remontée, je me suis un peu isolé du groupe dans lequel j'étais pour aller essayer mon arme. Vous savez, ce revolver que j'avais acheté au Nouveau-Mexique. Alors, j'ai été tiré sur des cactus. Voilà, donc j'étais seul, je tirais sur mes cactus, et puis à un moment donné, il y a un ranger qui est arrivé, et qui m'a dit qu'il fallait quand même que je fasse extrêmement attention, que j'arrête même de tirer sur les cactus, qui étaient quand même propriété de l'État d'Arizona. Et bon, je me suis fait un peu remonter les bretelles, mais bon, les choses se sont bien passées. J'ai pu garder mon arme, la ranger, et puis j'ai quitté ces terres rouges dans une grande remontée à pied qui du fleuve Colorado jusque sur ce terre-plein là, on croisait sur des chemins assez étroits des mulets qui portaient des grosses américaines, des grosses femmes américaines, etc. Bon, c'était assez pittoresque, mais bon, voilà ce dont je me souviens. Après, de l'Arizona, je suis passé en Californie. Californie, San Francisco. Après avoir franchi le Golden Gate, ce pont mythique tout rouge qui domine la baie de San Francisco et qui domine également cette île d'Alcatraz. Alcatraz, c'est quand même assez grand, mais cette prison dans laquelle tous les grands gangsters des États-Unis ont été emprisonnés. Voilà, bon, je l'ai vue de loin. On pouvait la visiter, mais je l'ai vue de loin. Elle était désaffectée, je pense, à l'époque. Et là, après avoir franchi le Golden Gate, je me suis dirigé vers un petit village qui s'appelait Sausalito. Alors, Sausalito, j'y suis pas allé comme ça tout à fait par hasard. C'était un renseignement que j'avais pu obtenir et qui me permettait d'avoir une première rencontre avec les hippies. Alors, Sausalito était un village désaffecté. Il faut savoir que les Américains se promènent au gré de leurs affaires et vont de quartier en quartier. Et là, ce quartier avait été désaffecté par les Américains normaux. C'était un beau village avec un petit port. Et là, j'ai rencontré mes premiers hippies. Alors, cette rencontre était quand même tout à fait étonnante. Imaginons, on est un peu au bord de l'eau, quoi, on pourrait se croire sur les bords de la Méditerranée, dans un village avec un grand gazon. Et sur ce grand gazon, des petits groupes de jeunes, habillés de façon bariolée, avec des fleurs dans les cheveux, avec des vêtements, tout à fait cocasses. Et c'est là où j'ai rencontré mes premiers hippies. Alors, d'où venaient les hippies? Les hippies, il faut savoir que l'Amérique était en guerre à ce moment-là au Vietnam, contre le Vietnam, et beaucoup de jeunes désertaient. Ils désertaient l'armée parce qu'ils ne voulaient pas partir au Vietnam. Et ça les traumatisait, et donc ils désertaient l'armée et pouvaient aller au Canada, pouvaient aller à... Ils quittaient l'Amérique, hein. Et quelquefois, ils allaient se planquer chez les hippies, où là, à coup de marijuana et de LSD, ils se métamorphosaient dans cette peuplade tout à fait étrange qu'était le mouvement hippie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai été hébergé par un gars qui s'appelait Paris et qui habitait une jonque chinoise. Cette jonque chinoise, une vieille jonque qui était dans le port de Sausalito, eh bien, il m'y a accueilli pendant plusieurs jours. Et là, c'était quand même assez bizarre de se retrouver sur cette jonque avec des Bouddhas, avec ce garçon qui, le matin, se levait assez tôt, je m'en souviens, mettait ses plus beaux habits un peu bariolés et fluo pour aller chercher du travail dans une moto, une Harley, un truc violet, pink, ce qu'on voulait, et revenait le soir assez désabusé de pas avoir trouvé d'employeur avec ses grands cheveux et ses colliers et tout. Voilà, donc, mais ça a été mon premier contact avec ce mouvement qui m'a beaucoup impressionné parce que il avait une assise universitaire et notamment à travers l'université de Berkeley où enseignait un monsieur qui s'appelait Gainsborough. Ce monsieur Gainsborough faisait l'apologie du LSD et de la marijuana pour confirmant que l'homme avait besoin de ces drogues pour sortir de leur milieu et rencontrer le divin, et rencontrer ce monde indien, hein, des Indiens d'Amérique du Nord notamment, et cela, ça pouvait se faire que par le biais des drogues. Alors, il fallait faire quand même extrêmement attention parce que ces drogues-là, je suis un peu confus dans mon discours, mais bon, je ne vous raconte que des souvenirs et des souvenirs qui sont un peu confus, j'en disconviens pas. Par contre, il fallait faire extrêmement attention, et notamment au LSD, hein, ce qui était des amphétamines, et parce que vous preniez ça, ça vous laissait un petit peu, ça vous donnait envie de vous jeter dans le vide. Alors, il y a eu des accidents assez importants de ces jeunes hippies qui dans des overdoses, eh bien, ouvraient la fenêtre et puis se jetaient dans le vide. Bien sûr, ils habitaient des petites maisons, ils habitaient de ce quartier désaffecté qui était un joli quartier, mais quelquefois ils pouvaient se faire très très mal. Quant à moi, je les ai un petit peu essayés, ces drogues-là, et on m'a même confirmé un matin que j'avais joué toute la nuit du piano, alors j'ai jamais su jouer de piano, mais bon, j'ai joué du piano, du jazz, il paraît que c'était bien, j'avais animé une petite soirée à moi, mais complètement dopé. Voilà, les hippies, eh bien, avaient le culte de la nature, ils voulaient retourner aux sources. Et il s'inscrivait dans une démarche tout à fait psychédélique, comme il disait. C'était l'époque où on entendait les Beatles, où on entendait les grands orchestres. Et là, je vais vous raconter justement une petite histoire d'orchestre. À côté de Sausalito, il y avait ce qu'on appelait un pain de sucre. Un pain de sucre, c'était une montagne. Comme il y a à Rio de Janeiro, mais là beaucoup plus petite, une montagne, vous partiez de cette montagne et puis vous aviez une rue en colimaçon qui tournait autour de la montagne et qui vous amenait à un grand parking. Et là, j'ai assisté à quelque chose de tout à fait surprenant, une procession avec des hippies qui soufflaient dans des trompes tibétaines et qui montaient dans des grands ouh, 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 qui montaient tous ensemble vers cet immense parking qui était en haut du pain de sucre. Et là, la terre, le soleil et la lune se rejoignaient. Je m'explique. On était en fin d'après-midi, le soleil commençait à décroître et la lune à monter. Et on regardait ça du haut de ce parking, et à un moment donné, il est arrivé Jimi Hendrix. Non pas sur le parking, mais en bas du parking. Jimi Hendrix qui nous a fait passer une soirée, mais d'enfer. Moi, je ne connaissais pas, mais les Américains étaient là et eux, ils savaient. Ils savaient de quoi ils retournaient. Et on a regardé ce gars. Après cette procession au son des trompes tibétaines, ce gars avec ses sons qui étaient tout à fait étranges et que moi je connaissais pas, mais que les Américains appréciaient grandement. Et on a vu ce gars se défoncer, mais comme un malade. Et on était loin, hein, mais il avait sa scène au bas de ce pain de sucre, et on le voyait se défoncer complètement, finir son show en prenant sa guitare par le manche et en la cassant sur les amplis et sur les baffles. Bah, c'était des trucs tout à fait surnaturels. Voilà. Bon, ça c'était une chose. Ensuite, côté hippie, côté musique, j'ai eu l'occasion de participer parce que j'étais avec un copain qui faisait partie de la bande d'Eric Clapton. Eric Clapton, c'était le chanteur des Cream. Et ce gars-là m'avait amené dans une soirée où il était chargé d'animer sur des grands écrans des projections faites avec des rétroprojecteurs, des projections de couleurs. Alors, comment les choses se passaient? Je suis un peu confus là aussi. Il avait une coupelle, le gars. Dans cette coupelle, il jetait du mercurochrome, par exemple. Et la coupelle était avec le rétroprojecteur, renvoyait ça sur un grand écran derrière Eric Clapton, et dans cette coupelle, il jetait du mercurochrome, il jetait des liquides noirs, ce qui faisait des trucs tout à fait fantasmagoriques derrière la musique, et puis il faisait ça au rythme de la musique. Et quand on avait vu Eric Clapton avant son show boire oh, une bonne demi-bouteille de vodka pure, et ben là, ça faisait quelque chose, ça déménageait. On était dans une gare, une sorte de grande gare routière, désaffectée, et là, bon, c'était tout à fait surréaliste comme ambiance. Après l'Arizona, après la Californie, eh bien me voilà parti en Oregon, et notamment dans le Wyoming, au parc de Yellowstone. Je voulais y aller parce que c'était beau, parce que ça m'avait, sur les catalogues que j'avais vus en France, ça m'avait vraiment subjugué, et je voulais voir ces geysers de vapeur soufrée démarrer, s'éteindre, ça faisait des grands pfff, et puis ça sentait le soufre, et c'était tourné un petit peu comme sur des rochers, sur des grandes plaques rocheuses, et on avait ces geysers qui démarraient comme ça, sans prévenir, avec des vapeurs jaunes. Il fallait pas rester très très près, parce que sinon ça pouvait rendre malade. Voilà, les geysers de Yellowstone. Un autre souvenir aussi. Avec un copain, donc on avait loué une voiture, une Impala, une grande voiture de chez Chevrolet. Et là, on voit des ours, mais des petits ours qui sortent, on se promenait en voiture dans ce grand parc, on voit ces petits ours, et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'arrête, on avait avec nous des casse-croûtes, on donne aux ours des casse-croûtes, et puis ça c'était les petits, on les fait monter sur le capot de la voiture. Et puis des plus grands sont arrivés, les parents sont arrivés, et puis là, bon, tout s'est très bien passé, bon enfant, nous avec nos ours et nos sandwichs pour leur donner à manger, Et à un moment donné, des Rangers sont arrivés et nous ont intimé de rejoindre immédiatement notre voiture. On ne se rendait pas compte, mais on était vraiment en grand danger avec ces grands ours et leurs petits. Voilà. Dommage qu'on n'ait pas fait de photo parce que c'était quand même assez quelque chose. Et puis quand on sait que les griffes des ours avaient rayé le capot, bon, c'est pour vous dire un peu les situations dans lesquelles on était. Ensuite, Chicago. Chicago, les speakeasy. Les speakeasy, c'était ces boîtes... C'était devenu des boîtes de nuit, mais avant, c'était les endroits où les Américains se retrouvaient le soir pour boire de l'alcool à l'époque de la Prohibition. Et après la Prohibition, ces boîtes-là ont été fermées et elles se sont transformées toutes en boîtes de nuit. Et notamment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné dans une de ces boîtes dont le nom m'échappe, qui s'appelait Ahmad Jamal. Ahmad Jamal, c'est un monsieur qui est encore vivant, me semble-t-il, un des pianistes de jazz extraordinaire, un pianiste de jazz qui faisait le lien entre la musique toujours jazzy de Piaf, de Brel, de Léo Ferret, etc., de nos artistes européens qui l'importaient aux États-Unis façon jazz. Belle soirée, beau moment. Toujours à Chicago, ah oui, j'ai vu un truc assez étonnant. Un arrêt de bus, j'attendais un bus. Il y avait du monde qui attendait ce véhicule. Et puis là, on voit une femme s'accroupir. Elle s'accroupit, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pipi. Elle faisait pipi dans le caniveau à l'arrêt du bus. Bon, personne n'a rien dit. Moi, j'ai trouvé ça singulier. La preuve, c'est que je m'en souviens. Après Chicago, ben, on était toujours dans les Grands Lacs, là, voilà, arrivé aux chutes du Niagara. Grand lac qui fait la frontière entre les USA et le Canada, avec des chutes formidables, très impressionnantes. C'était le lieu des voyages de noces de beaucoup d'Américains qui venaient se ressourcer là, dans ces chutes. Et le bruit, je l'ai encore dans les oreilles. C'était vraiment impressionnant. Après, du Niagara, après avoir quitté le Niagara, j'étais faire un tour au Canada. Mes vacances commençaient à se terminer. On était à la mi-septembre et j'ai été voir l'été indien au Canada. J'ai été à Montréal, j'ai été à Québec. Et là, je sentais les prémices du retour vers la France. Arrivé au Québec, j'ai retrouvé un copain de pension, ses parents avaient émigré là-bas, et j'étais passé quelques jours chez lui. Et c'était à la période où De Gaulle était venu au Québec. Et vous vous souvenez de « Vive le Québec libre » ? Eh bien, c'était ce jour-là, j'y étais. J'ai vu ça, non pas des visu, mais à la télévision, et ça m'a rappelé quand même quelque chose. C'était tout à fait surprenant, quoi. Tout à fait surprenant de voir De Gaulle parler du Québec libre. Et il faut savoir quand même qu'à l'époque, les Québécois français, eh bien, avaient du mal à faire leur place avec les anglophones. Et De Gaulle, qui ne voulait pas, avait quitté la France, et devinez avec quoi ? Il avait quitté la France avec un navire de guerre qui s'appelait le Colbert, qui avait remonté, qui avait quitté la France, je pense, Brest, et pour aller remonter le Saint-Laurent, s'arrêter au Québec, et nous dire « Vive le Québec libre ! » Alors pourquoi il avait pris ce croiseur de guerre ? Eh bien parce qu'il ne voulait pas, il voulait pas atterrir à la capitale, Ottawa. Il voulait pas que les Anglais le saluent. Il voulait pas de démonstration anglophone. Et donc, arriver avec un navire de guerre en plein Québec et parler du Québec libre, ça avait fait quand même son petit moment de gloire. Et voilà, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, alors au Canada, à Montréal, j'étais à Montréal, mais là c'est bizarre, mes souvenirs s'estompent, et j'y allais pour voir l'exposition universelle, et j'ai complètement oublié, c'est amusant, ma mémoire là, elle est vierge de tout souvenir. Voilà, donc mon voyage se termine. J'ai quitté Montréal pour rejoindre la France et ça avait été quand même de très très belles vacances, très très beaux moments. Oui, j'ai du mal à éteindre mon appareil, mais bon, on va y arriver.